Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié chez Grasset en 2006, Le jour où la France a fait faillite est un roman d'anticipation économique coécrit par Philippe Ries et Philippe Jaffré. L'ouvrage projette le lecteur durant l'été 2012 dans une France où l'État, surendetté, ne parvient plus à trouver les prêteurs nécessaires au financement courant de ses dépenses et ne peut notamment plus verser les traitements des fonctionnaires. Ce point de départ transforme une question réputée technique, la soutenabilité de la dette publique, en crise concrète, politique et sociale. Le livre mêle les codes du récit de catastrophe, de la chronique institutionnelle et de la vulgarisation financière. Son ambition n'est pas de fournir une prévision au sens strict, mais de rendre intelligible une vulnérabilité macroéconomique en déroulant les mécanismes et les répercussions quotidiennes. L'expérience des auteurs dans les milieux financiers, administratifs et européens nourrit cette mise en scène. Le roman se distingue ainsi par son effort pour relier marchés obligataires, décisions gouvernementales, banques et vie des citoyens. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la rupture du financement de l'État comme déclencheur de la faillite. Le mécanisme central du livre est moins une disparition abstraite de la richesse nationale qu'une crise de financement. Un État qui dépense davantage que ses recettes doit régulièrement emprunter pour couvrir son déficit et refinancer les échéances de dette arrivant à maturité. Dans le scénario imaginé par Ries et Jaffré, la confiance des prêteurs se brise au moment où la dette française est jugée trop risquée. L'enjeu devient alors immédiat car l'État ne peut pas différer indéfiniment ses paiements en attendant une amélioration économique. Cette perspective permet au récit de montrer pourquoi la dette publique dépend non seulement de son montant, mais aussi de la capacité à convaincre des investisseurs de continuer à prêter à un coût supportable. Une hausse des taux ou l'absence d'acheteurs peut rapidement réduire la marge de manœuvre budgétaire. Le choix d'une narration située au jour le jour souligne cette contrainte de calendrier. Il évite de traiter le déficit comme un indicateur lointain et le présente comme une dépendance opérationnelle au marché de capitaux. Le livre met donc en avant un principe essentiel de la finance publique: la solvabilité perçue et la liquidité disponible peuvent devenir des enjeux politiques avant même qu'un pays ne cesse formellement d'honorer toute sa dette. Deuxièmement, des marchés financiers au retrait d'argent du quotidien. L'une des forces pédagogiques du roman consiste à traduire une crise souveraine en effet observable par les particuliers. Les difficultés de l'État ne restent pas confinées au trésor, aux agences de notation ou aux salles de marché. Le livre évoque notamment la pénurie d'argent aux distributeurs, image simple d'une perte de confiance qui atteint les circuits ordinaires de paiement et d'épargne. Cette transposition rappelle que les institutions financières détiennent des titres publics et que leur fragilisation peut limiter le crédit, accroître la prudence bancaire et perturber la circulation monétaire. Le raisonnement ne suppose pas que chaque détenteur de compte supporte directement la dette de l'État, mais que les bilans bancaires, les garanties publiques et les anticipations des déposants sont interdépendants. Lorsque la valeur des obligations publiques chute, les établissements qui en possèdent peuvent subir des pertes et restreindre leurs activités. Une telle restriction pèse ensuite sur les entreprises et les ménages qui ont besoin de financement. En choisissant le registre du roman Catastrophe, les auteurs donnent une visibilité dramatique à ces chaînes de transmission. Cette approche aide à comprendre qu'une crise de dette n'est pas uniquement une affaire de comptabilité nationale, elle peut affecter les salaires, les services publics, l'accès au liquide et l'activité économique dans son ensemble. Troisièmement, la crise budgétaire devient une épreuve de gouvernement et de légitimité. Le récit situe la faillite dans un contexte de crise gouvernementale, ce qui met en évidence la dimension institutionnelle d'un choc financier. Lorsque l'État ne peut plus assurer des paiements aussi fondamentaux que les rémunérations de ses agents, il ne fait pas seulement face à un problème de trésorerie. Sa capacité à remplir ses missions et la crédibilité de ses décisions sont directement mises en cause. Les responsables politiques doivent alors arbitrer entre des options coûteuses: réduire les dépenses, augmenter les prélèvements, solliciter une aide extérieure, négocier avec les créanciers ou tenter de restaurer rapidement la confiance. Le livre ne transforme pas ses choix en solutions faciles. Il fait plutôt ressortir le fait que chaque réponse comporte des effets distributifs et sociaux, donc des conflits. Une réduction de dépenses touche des bénéficiaires précis, tandis qu'une hausse d'impôts modifie les revenus disponibles et peut freiner l'activité. La présence de figures politiques réelles dans la projection renforce l'impression de proximité, même si ce procédé a aussi été discuté par certains lecteurs. Sur le fond, cette construction rappelle utilement qu'une politique budgétaire n'est jamais purement technique. En période de crise, elle engage la continuité de l'action publique, la confiance collective et la capacité du pouvoir exécutif à faire accepter des décisions exceptionnelles. Quatrièmement, le rôle amplificateur des banques et des détenteurs d'obligations publiques, le livre accorde une place importante aux intermédiaires financiers. Car une crise de dette souveraine peut se propager à travers les portefeuilles d'obligations publiques. Les sources disponibles autour de l'ouvrage signalent le risque pesant sur des institutions détenant des titres du Trésor lorsque leurs cours chutent fortement. La logique est claire, une baisse de valeur de ces actifs dégrade les bilans des détenteurs et peut réduire leur aptitude à prêter ou à absorber de nouvelles pertes. Les banques privées risquent alors de diminuer leur activité de crédit, ce qui renforce le ralentissement économique déjà provoqué par la crise budgétaire. Le roman rend ainsi visible une boucle de rétroaction. L'État affaibli fragilise les institutions financières qui financent l'économie. Une économie moins dynamique réduit à son tour les recettes publiques et rend le redressement plus difficile. Cette représentation ne prétend pas que toute détention de dette publique conduit mécaniquement à une faillite bancaire. Elle insiste sur la concentration des risques, la vitesse de la défiance et l'importance de la liquidité en situation de panique. En articulant dette, banque et crédit, Ries et Jaffré dépassent une vision limitée du problème public. Leur scénario présente le système financier comme un réseau d'engagement réciproque, dans lequel la protection apparente des obligations d'État peut elle aussi être remise en question. En dernier lieu, le roman d'anticipation comme outil de vulgarisation économique, le jour où la France a fait faillite, choisit la fiction prospective plutôt que l'essai économique classique. Cette forme répond à une difficulté réelle, les notions de déficit, de refinancement, de taux d'intérêt et de risque souverain sont souvent perçues comme éloignées de l'expérience commune. En imaginant une succession rapide d'événements pendant l'été 2012, les auteurs donnent à ces notions une temporalité, des conséquences et des acteurs institutionnels. Le lecteur est invité à suivre des enchaînements plutôt qu'à mémoriser des définitions. Le procédé a toutefois une limite inhérente. Un scénario catastrophe sélectionne et accentue les mécanismes capables de produire une rupture spectaculaire. Il ne doit donc pas être lu comme une description certaine de l'avenir, ni comme un modèle exhaustif d'une crise nationale. Les circonstances exactes projetées par le livre ne se sont d'ailleurs pas réalisées telles quelles. Son intérêt durable réside ailleurs, il pose la question des conditions qui rendent un pays dépendant de la confiance des créanciers et de la manière dont une alerte financière se transmet à l'économie réelle. La documentation économique revendiquée par les auteurs et la lisibilité du récit explique que l'ouvrage puisse servir d'introduction critique au risque de la dette publique, tout en conservant les ressorts d'une fiction politique. En conclusion, ce livre s'adresse en priorité aux lecteurs intéressés par les finances publiques, les crises bancaires, la dette souveraine et le fonctionnement concret des institutions françaises, sans exiger une formation préalable en économie. Il peut également être utile aux étudiants, aux citoyens qui suivent les débats budgétaires et aux lecteurs de fiction politique désireux de comprendre les mécanismes derrière un scénario de rupture. Son bénéfice intellectuel principal est de relier des notions souvent séparées : le déficit de l'État, la confiance des investisseurs, le prix des obligations, la santé des banques, le crédit et les conséquences vécues par les ménages. Cette articulation permet de lire l'actualité économique avec davantage de discernement, notamment en distinguant une contrainte de financement d'une simple formule alarmiste sur la dette. L'ouvrage se démarque des essais financiers traditionnels par son dispositif narratif. Au lieu d'exposer des thèses de manière abstraite, il teste les implications d'une fermeture des marchés à travers une chronologie de crise. Il se distingue aussi des romans catastrophes purement spectaculaires par l'importance donnée au rouage du trésor du système bancaire et de la décision publique. Il convient néanmoins de le lire comme une anticipation documentée, marquée par les préoccupations du milieu des années 2000, et non comme une prédiction validée. C'est précisément cette combinaison de fiction, de pédagogie et de mise à l'épreuve politique qui fait sa singularité dans la littérature économique française. Si vous souhaitez soutenir Philippe Ries, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.